Je vous avais laissé la dernière fois en plein suspense après la série des attentats. Bien évidemment, Arafat multiplie les mesures spectaculaires de répression. On frappe l'infrastructure caritative du Hamas, on multiplie les arrestations, ainsi de suite. L'un des organisateurs des attentats est arrêté et déclare à la télévision palestinienne que le but des attentats est de donner le pouvoir au Likoud en Israël. Le Likoud proteste en disant que c'est une manipulation. D'ailleurs, on voit très bien que la personne a parlé sous la torture, vu les traces de coups. C'est pour ça qu'ils auraient dû faire ça à la radio. C'est dans cette atmosphère que s'ouvre à Gaza, le 7 mars 1996, la séance inaugurale du Conseil de l'Autorité palestinienne. Ahmad Korey est élu président, speaker, par 57 voix contre 31 à Haïdar Abdel Shafi. Cela donne le rapport de force à l'intérieur de la nouvelle institution entre partisans et opposants à Yasser Arafat. Dans son discours d'une heure, Arafat se présente en chef d'État, critiquant le blocus imposé par les Israéliens au territoire autonome. L'essentiel est consacré à la dénonciation du terrorisme, tout en se gardant de prononcer le nom du Hamas. Il associe le terrorisme venu de l'islamisme à celui venu de l'intégrisme juif, ce qui permet de mieux diaboliser le premier. L'économie palestinienne est complètement paralysée du fait du bouclage. Il est interdit de circuler entre les différentes enclaves. Tout est soumis au blocus. Des pénuries alimentaires et de médicaments s'installent. L'autorité palestinienne a beau jeu de souligner que cela sape l'un des piliers considérés comme essentiel du processus de paix, l'amélioration de la situation économique de la population, et que l'on punit des innocents. Shimon Peres donne carte blanche à l'armée pour frapper des terroristes, mais il est difficile de trouver des cibles déterminées du fait de la clandestinité des mouvements armés. L'administration Clinton est décidée à lui apporter tout son soutien afin de sauver le processus de paix. C'est maintenant l'Iran qui est désigné comme l'ennemi principal. L'enjeu est d'obtenir des Européens leur participation aux sanctions économiques menées par les États-Unis, alors que l'Union européenne est attachée à un dialogue critique avec la République islamique de Téhéran. Cette République islamique dément toute implication dans les attentats commis en Israël et nie avoir accordé des financements au Hamas, ce qui est d'ailleurs probable, le mouvement islamiste palestinien se finançant avant tout par les contributions de la diaspora palestinienne et par des levées de fonds auprès des musulmans du monde entier. Au contraire, le Hezbollah se félicite publiquement de l'aide que lui apporte Téhéran. Ross Christopher persuade Clinton d'organiser un sommet réunissant les chefs d'État arabes et non-arabes pour condamner le terrorisme et sauver le processus de paix. Il s'agit de montrer à la société israélienne qu'elle n'est pas seule dans l'épreuve. Premier à être contacté, Hosni Moubarak propose la station balnéaire de Sharm el-Sheikh dans le Sinaï, qui dispose des infrastructures nécessaires, c'est-à-dire un aéroport international, et dont l'isolement relatif dans le Sinaï permet de mieux garantir la sécurité. Le prince Bandar, contacté, assure le soutien et la participation de l'Arabie saoudite. Des invitations sont ensuite envoyées. Une trentaine de pays annoncent leur participation, mais la Syrie, donc le Liban, refuse de s'y rendre. Le choix d'Hamas s'explique par sa déception devant l'interruption des négociations. Il ne veut pas qu'on remette en cause ou qu'on dénonce ce qui est son principal moyen de pression sur Israël, l'alliance avec Téhéran et avec le Hezbollah. L'Iran est de plus en plus clairement visé dans les dénonciations américaines et israéliennes. Finalement, 26 États plus l'ONU et l'Union européenne sont présents à la réunion des bâtisseurs de la paix, peacemakers, terme proposé par l'Égypte plutôt que de celui de lutte contre le terrorisme. La réunion se tient le 13 1996. Parmi les hôtes les plus prestigieux de l'Égypte figurent Bill Clinton, Shimon Peres, le président de l'autorité palestinienne Yasser Arafat, les rois Hussein de Jordanie et Hassan II, les chefs d'État français Jacques Chirac et russe Boris Eltsine, le chancelier allemand Helmut Kohl, le premier ministre John Major, britannique. Parmi les pays occidentaux, le Canada, l'Italie, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne, la Turquie et le Japon sont aussi représentés. Les États pétroliers du Golfe sont là à un niveau ministériel, à l'exception du Qatar qui n'a pas répondu à l'invitation. L'Irak, le Soudan, la Libye, l'Iran ont été exclus par les organisateurs pour soutien au terrorisme. Le sommet proprement dit ne dure que 3 heures, puisque ce qui compte est avant tout le symbole de la photo de groupe. Vous les voyez ici, main dans la main, ils ont l'air très gentils. Les Européens tiennent bon ce qui concerne leur attitude envers l'Iran. Clinton multiplie les marques de soutien et de sympathie envers le peuple israélien traumatisé. Arafat est félicité pour sa lutte contre le terrorisme. Mais il n'est pas question de mettre fin au bouclage des territoires. Bill Clinton a déploré l'usage de cette punition collective, mais la juge nécessaire en période d'attentat. Le communiqué final rappelle le soutien au processus de paix et appelle à une coordination des politiques contre le terrorisme. Le terme reste vague puisqu'aucun pays n'est mentionné, ni la Syrie, ni l'Iran. On évoque les besoins économiques pressants des Palestiniens sans en indiquer l'origine. Dans la foulée, Bill Clinton assiste au Conseil des ministres du gouvernement israélien. Il marque ainsi combien la sécurité d'Israël importe aux États-Unis. Une aide financière spéciale de plus de 100 millions de dollars pour la lutte contre le terrorisme est accordée. On étudie la possibilité d'un pacte de défense entre les deux pays, mais on se heurte dans ce domaine à la question de l'arsenal nucléaire israélien qui est censé ne pas exister. Le gouvernement israélien pose maintenant comme condition de la reprise des négociations avec la Syrie une condamnation explicite du terrorisme par Damas. Dans les sondages, les travaillistes reprennent l'avantage. Les responsables de l'autorité palestinienne endossent la thématique du rôle de l'Iran dans les derniers attentats. Ils affirment en avoir trouvé la preuve lors des différentes perquisitions effectuées dans les milieux islamistes. Cela permet d'exonérer la direction du Hamas et celle des brigands Razeddin al-Qassam de toute implication directe. On évoque l'existence d'une troisième formation dénommée l'organisation spéciale ou secrète, réminiscence certainement des anciennes organisations secrètes des frères musulmans. Elle se serait rendue autonome et aurait des liens avec l'étranger iranien qui aurait donné l'ordre de passer à l'action afin de ruiner le processus de paix et l'autorité palestinienne. Shimon Peres veut maintenant endosser les habits de Monsieur Sécurité. Il n'allège que faiblement le blocus des territoires et laisse entendre qu'il va durer au moins jusqu'aux élections. La Cour suprême israélienne autorise la destruction des maisons des familles des terroristes. Les 3 juges ont estimé que les auteurs des attentats auraient peut-être renoncé à leur mission suicide s'ils avaient su que les maisons de leurs familles seraient ensuite détruites. Une grande partie des étudiants palestiniens de l'université de Beerzeit, originaires de la bande de Gaza, sont arrêtés comme suspects de terrorisme. Leur déploiement israélien dans la ville de Hébron est officiellement remis sine die, officieusement pour le 15 juin après les élections. La coopération policière entre Israël et l'autorité palestinienne s'intensifie. Mohamed Darlan est l'un des hommes clés du dispositif sécuritaire. Pendant ce temps-là, le Hezbollah lance une vaste offensive dans la zone occupée par Israël. Cela s'accompagne d'une escalade verbale entre Israël et la résistance islamique. Uri Loubrani menace de ne plus respecter l'accord de juillet 1993. Ehud Barak affirme que son pays est capable de frapper les combattants du Hezbollah tout en épargnant les civils. Comme avant juin 1982, le Liban est de nouveau désigné comme le sanctuaire du terrorisme. La presse internationale du 20 mars parle d'une offensive israélienne contre le Liban qui aurait été arrêtée in extremis par les États-Unis, soucieux de maintenir les chances d'une paix avec la Syrie. le même jour une opération suicide de Hezbollah, la première depuis 11 mois, fait un mort et deux blessés dans les rangs de l'armée israélienne. En représailles, l'artillerie israélienne bombarde plusieurs villages chiites à l'extérieur de la zone de sécurité et le Hezbollah réplique par des tirs contre des positions de la LS. Le communiqué de la résistance islamique marque l'intention politique de l'opération. Je cite. Au moment où les capitulaires se prosternent à la porte de la Maison Blanche, un de nos moujahidines martyrs s'est jeté contre le convoi en faisant sauter ses charges. En menant cette attaque suicide, la résistance islamique affirme qu'elle poursuivra son droit légitime de libérer la terre, quelles que soient les campagnes d'intimidation. Fin de citation. Peres s'en prend directement au gouvernement libanais et iranien. La réponse de Beyrouth est qu'il faut d'abord appliquer la résolution 425 qui comprend l'évacuation inconditionnelle du Liban Sud. Hésitant à entreprendre une opération majeure dans cette région, Peres pousse les Américains à multiplier les avertissements à Damas afin d'obtenir une retenue voire un arrêt des opérations de Hezbollah. Et conditionne la reprise des négociations à la Syrie à l'arrêt des opérations du Hezbollah. Le régime syrien refuse toute conditionnalité et rejette les réunions antiterroristes prévues par les bâtisseurs de la paix. Finalement, on convient d'une réunion d'urgence de la conférence des donateurs présidée par la Norvège, destinée à lancer un programme de grands travaux afin d'occuper la main-d'œuvre palestinienne au chômage. Pour les opposants palestiniens, il s'agit d'un palliatif destiné à assurer le maintien du bouclage. Peres enregistre un succès diplomatique important en se rendant en Oman et au Qatar au début d'avril. Néanmoins, il durcit toujours plus son discours. Il n'est pas question de voir édifier un État palestinien et l'essentiel des colonies restera sous souveraineté israélienne. Soutenu par Barak, qui apparaît comme le chef de file des faucons travaillistes, il évoque la possibilité d'un référendum pour entériner l'accord final quand il sera conclu. Les paramètres de ce futur accord sont clairs, pas d'État binational, pas de transfert, pas de contrôle sur un autre peuple. Jérusalem comme capitale d'Israël, la vallée du Jourdain comme frontière de sécurité, et le maintien de toutes les colonies en place. Face aux critiques de la droite, il répond que le référendum empêchera toute concession trop importante aux Palestiniens. Au Liban, un tir de blindé israélien tue deux civils libanais le 30 mars, ce qui provoque une volée de roquettes du Hezbollah sur la Galilée. Peres reconnaît que c'est une erreur. Le 1er avril, après la mort d'un adolescent libanais victime d'une mine, c'est un nouveau tir sur Kiryat Shmoné qui fait 13 blessés. Puis un calme précaire s'installe, marqué par une visite de Jacques Chirac. Ce dernier appelle à une pleine indépendance du pays des cèdres. Le 9 avril 1996, une bombe télécommandée israélienne tue un garçon libanais de 14 ans et blesse trois personnes au village de Barachit. Le Hezbollah lance en représailles trois salves de Katyusha sur Kiryat Shmoné, faisant une trentaine de blessés. Peres reconnaît que l'action diplomatique n'a rien donné et annonce des élections ciblées. Plus franchement, le chef militaire de la région nord d'Israël annonce, je cite, « Les habitants du Liban Sud, sous la responsabilité de Hezbollah, seront frappés plus durement, de même que le Hezbollah. » En revanche, cher Nasrallah, le chef du Hezbollah, marque qu'il faut éviter de porter atteinte aux civils des deux bords, mais souligne que le temps est révolu où nous ont tués sans que nous rendions l'appareil, le temps où seules nos maisons étaient détruites. Le 10 avril, étant le jour de Pâques juive, il n'y a pas d'opération israélienne, mais un soldat israélien est tué et deux autres blessés dans une embuscade dans la zone occupée. C'est Ehud Barak, bien que ministre des Affaires étrangères, qui a conçu l'opération israélienne. Utiliser la puissance de feu pour créer un désastre humanitaire et la fuite de la population civile. Cela forcerait le gouvernement libanais et la Syrie à limiter les activités de Hezbollah, ce qui permettrait le retour au calme dans la zone de sécurité. Pérez s'est trouvé dans l'impossibilité de s'opposer aux militaires. S'ils refusent leur plan, il y aurait des fuites opportunes dans la presse, marquant que le Premier ministre place la sécurité du pays au second plan. Au contraire, si on applique, il redeviendra Monsieur Sécurité. Le 11 avril 1996, commence l'offensive aérienne israélienne par des raids aériens contre la banlieue sud de Beyrouth, la Beka, et le sud du pays, faisant 5 morts. La population de la région nord d'Israël se réfugie dans les abris. Uri Lubrani marque les intentions israéliennes, je cite, « Aucun sanctuaire des terroristes ne sera épargné, que ce soit à Beyrouth ou dans la plaine de la Beka, où se trouvent des centres de Hezbollah, du Hamas et du djihad islamique. Beyrouth ne connaîtra pas la paix si Kiryat Shmona et Nahariya sont bombardés. » Fin de citation. L'administration Clinton fait porter la responsabilité de la crise sur les tirs de Hezbollah dans le nord d'Israël. La réplique inévitable est une pluie de roquettes sur le nord d'Israël, suivie d'échanges d'artillerie au Liban sud. La population de cette région fuit en masse vers le nord. L'exode concerne de 300 à 500 000 personnes. Un exode plus restreint en nombre concerne la population israélienne proche de la frontière libanaise. Le 13 avril, l'armée israélienne donne le nom d'opération « Raisin de la colère » à ces bombardements massifs qui atteignent maintenant l'infrastructure civile libanaise. Une des principales centrales électriques du pays est ainsi frappée. La population civile est définie comme étant un bouclier humain de Hezbollah. On lui recommande par voie radiodiffusée de s'éloigner afin de permettre de bombarder les villages, voire les villes du Liban Sud, comme tir. Si la rhétorique militaire israélienne évoque maintenant des pertes collatérales et se sert de la théorie morale du moindre mal, c'est un mal de frapper des civils, mais c'est acceptable si cela permet de détruire la force de l'ennemi. C'est en fait toujours la même stratégie de frapper la population pour la séparer des combattants, puisque le Hezbollah applique le principe du poisson dans l'eau dans la population. L'expérience historique cumulée depuis la Seconde Guerre mondiale montre qu'une telle stratégie échoue toujours, au moins à court terme, les sacrifices renforçant le soutien moral aux combattants. La France de Jacques Chirac propose sa médiation et le ministre français des Affaires étrangères, Hervé de Charette, commence une navette régionale alors que la diplomatie américaine se trouve paralysée par son alignement inconditionnel sur la politique israélienne. Les États-Unis sont de nouveau en période électorale et l'administration Clinton est persuadée que la survie du processus de paix dépend de celle du gouvernement Pérez. Elle a accepté la perspective globale que le terrorisme est organisé à partir de l'Iran, que cette nouvelle guerre est aussi un conflit contre la République islamique. Israël se heurte rapidement aux limites de l'usage de la force. Si les souffrances de la population libanaise sont considérables, la puissance de feu du Hezbollah reste intacte et se traduit par la poursuite des tirs contre le nord d'Israël. On hésite à se lancer dans une opération terrestre qui risquerait de conduire à la répétition de la désastreuse guerre de 1982. Si dans l'immédiat, Pérez semble regagner des voix dans la perspective des élections, il perd totalement son aura d'homme de la paix et dilapide son capital politique international. Plus l'opération durera, moins les gains politiques seront évidents, mais le Hezbollah ne semble pas être sur le point de céder. L'un de ses chefs politiques explique ainsi la ligne stratégique du mouvement, qui est de maintenir une contre-dissuasion par rapport à Israël. Je cite, « La résistance islamique accomplit son devoir qui consiste à faire face à l'agression. Il est vrai que celle-ci a provoqué un mouvement d'exode, mais la résistance a été contrainte de lancer des représailles douloureuses qui ont transformé les colons israéliens en réfugiés. Nous disposons d'informations sur le nombre de colons déplacés, qui est le même que celui des Libanais qui ont été poussés à l'exode. C'est l'issue de la bataille qui compte. Si l'ennemi sioniste réussit à réaliser ses objectifs politiques à travers cette agression, il aura alors profité au maximum du soutien des États-Unis. Mais nous sommes pleinement convaincus que l'ennemi ne pourra réaliser aucun de ses objectifs. Il sera contraint de se replier vaincu et il paiera très cher le prix de son agression. Notre expérience est grande avec les Israéliens et le vainqueur sera celui qui a le souffle le plus long et c'est l'ennemi qui baissera le premier les bras. Le minimum acceptable pour la résistance est un renforcement de l'accord tacite de juillet 1993. Ce sont les Israéliens, c'est toujours la même citation, hein. Ce sont les Israéliens qui ont torpillé l'accord tacite en lançant leur agression. Ils doivent en payer le prix. Pour le moment, il n'y a aucune démarche. L'horizon politique est complètement bouché. Il ne semble pas qu'un nouvel accord soit en passe de voir le jour. De toute manière, nous ne sommes concernés par l'accord tacite que dans la mesure où il protège les civils. Mais si les civils ne font plus partie des lignes rouges, nous sommes plus intéressés par des accords de pure forme. Fin de citation. Le but de Hezbollah est ainsi clairement exprimé. Montrer sa capacité de résister et imposer un retour de l'accord de 1993, ce qui lui permettrait de maintenir sa guérilla permanente contre les forces d'occupation, alors que la finalité de l'action israélienne est plus confuse, allant de l'élimination du Hezbollah au seul arrêt des bombardements des régions frontalières du Liban. Au Conseil de sécurité, le 15 avril, les États-Unis s'opposent à tout passage d'une résolution hostile à Israël. Pour l'ambassadeur américain aux Nations Unies, ce sont les actions du Hezbollah qui ont une fois de plus obligé le gouvernement israélien à prendre des mesures pour protéger sa population. Sur le terrain, la FINUL fait de son mieux pour secourir une population pour qui elle est bien souvent le dernier espoir. Près de 6 000 habitants du Liban Sud, contraints par les Israéliens de quitter leur localité bombardée sans relâche, trouvent refuge dans les postes des différents bataillons de la force internationale installés le long des petites routes étroites qui serpentent entre les villages. Les casques bleus tentent aussi de favoriser l'évacuation des zones de bombardement au risque de s'exposer aux tirs de l'artillerie israélienne. Comme en 1982, la presse internationale couvre les malheurs du Liban, les reporters multipliant les reportages à partir du Liban Sud dévasté et se faisant ainsi accuser de partialité. Faute de pouvoir frapper efficacement le Hezbollah, l'armée israélienne étend le domaine de ses attaques, s'en prenant à une seconde centrale électrique où est la résidence de Nabi Berri, le chef du mouvement Hamal. Clairement, l'État libanais et la reconstruction du pays se trouvent visés dans le but de faire pression sur la résistance islamique. La diplomatie américaine commence à s'inquiéter des répercussions de l'opération sur l'opinion publique arabe et internationale. C'est toute la stratégie antiterroriste mise au point lors du sommet des bâtisseurs de la paix qui est en cause. Les États arabes étant au minimum contraints de s'abstenir de participer aux prochaines réunions, tandis que l'antisionisme, l'anti-impérialisme et l'anti-américanisme s'alimentent des destructions israéliennes qui ne peuvent que favoriser le recrutement des mouvements définis comme terroristes. Les diplomates américains entrent en jeu, poussant cette fois un accord écrit et plus précis, remplaçant celui de 1993. La pierre d'achoppement est la possibilité de laisser le droit à Israël de retourner le feu contre un village d'où un tir de Hezbollah serait parti, ainsi que l'arrêt de ses attaques dans la zone de sécurité. En contrepartie, les Israéliens s'engageraient à évacuer le Liban Sud au bout d'une période de calme de 9 mois, le sort de l'ALS n'étant pas tranché. Les Américains sont en concurrence avec le Français, Hervé de Charette déclarant qu'il ne quittera pas la région sans avoir obtenu un accord. La différence d'approche entre les deux diplomaties porte sur la place accordée à la Syrie, signataire pour les Américains, garante pour les Français, soucieux de maintenir l'indépendance politique juridique du Liban, et sur la mise en place du mécanisme de contrôle. De façon plus générale, le but de la diplomatie française est d'arriver à une formalisation de l'accord de 1993. En une semaine, les opérations israéliennes ont fait plus d'une quarantaine de tués dans la population libanaise. C'est dans ce contexte que le matin du 18 avril 1996, un missile israélien tombe sur une maison de Nabatillé, tuant une mère de famille et 7 enfants, dont un nourrisson. Pour les responsables militaires israéliens, la maison visée appartenait à un responsable de Hezbollah dans laquelle s'était réfugié un commando de l'organisation, ce qui est doublement faux, puisque le propriétaire était un réparateur de tracteurs en pèlerinage à la Mecque et que le caractère des victimes montre qu'il ne s'agissait pas d'un commando. Un peu plus tard, le même jour, 38 obus israéliens tombent sur un poste de la Finule où s'était réfugiée la population locale du village de Cana. Il y a une centaine de morts et encore plus de blessés. Le gouvernement israélien, devant l'émoi international, invoque l'erreur de tir et la proximité d'éléments du Hezbollah. Les témoins rapportent la présence d'un drone d'observation et de deux hélicoptères israéliens peu avant les tirs, ce qui est démenti par les Israéliens. Mais une vidéo tournée par un casque bleu en démontre l'existence. Le gouvernement israélien, embarrassé, expliquera alors qu'il y avait bien un drone, mais qu'il ne pouvait rien voir. Ce sont les radars qui auraient indiqué la position des lanceurs de roquettes à proximité du poste. L'enquête de l'ONU, que vous pouvez trouver sur l'Internet, bien qu'édulcorée, indique clairement que le poste de l'ONU, où se trouvaient 800 civils, a été délibérément visé. Il est peu probable qu'il y ait eu erreur de tir. La question de savoir si les civils avaient été visés est secondaire, puisque l'objectif n'était pas en soi légitime. Ce rapport a été catégoriquement rejeté par les autorités israéliennes qui s'en tiennent à la thèse d'une erreur de tir due à de mauvaises indications cartographiques. La presse israélienne publiera des interviews accablantes des soldats ayant effectué les tirs mortels. Ils nous ont dit que nous avions rempli notre mission, que nous étions très bien et qu'il ne s'agissait en fait que d'Arabouchim, terme raciste signifiant les Arabes en hébreu. Il n'y aura aucune sanction, voire même de constat d'erreur à cet échelon de l'armée. Le massacre de Cana, entre guillemets, comme il a été appelé immédiatement, entre dans la martyrologie arabe au même titre que Deir Yassin en 1948, Kaf Kassem en 1956 ou Sabra et Shatila en 1982. Les Israéliens ont leur martyrologie parallèle. Au Liban, Cana devient un symbole national qui représente toute l'oppression israélienne. Il y aura d'imposantes funérailles des victimes au début du mois de mai. L'impact international est considérable en dépit de l'expression des regrets israéliens. La question de la responsabilité immédiate est secondaire, puisque ce qui est en compte est la question de l'usage de la force. En s'en prenant à toute l'infrastructure civile du Liban Sud, par exemple des châteaux d'eau, et en définissant les civils comme des boucliers humains, l'armée israélienne ne pouvait immanquablement que commettre des erreurs. De toute façon, la volonté de créer un désastre humanitaire était clairement exprimée depuis le début. À partir de là, la dynamique de l'opération Raisin de la colère est cassée, ainsi que l'image de Pérez comme bâtisseur de la paix. Le 19 avril, la résolution 1052 du Conseil de sécurité demande la cessation immédiate des hostilités en réussissant l'exploit de ne mentionner ni Israël ni le Hezbollah. Alors que la Syrie avait été marginalisée lors du sommet de Sharm el-Sheikh, elle se retrouve maintenant au centre du jeu diplomatique. L'État libanais est impuissant à agir et on ne peut pas traiter directement avec le Hezbollah sans lui donner de la légitimité. De même, la diplomatie française peut traiter avec l'Iran, ce qui est interdit à l'américaine. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent. Warren Christopher et Dennis Ross entreprennent de nouveau la navette entre Damas et Jérusalem, tandis que les ministres français, russes, italiens et iraniens passent par le chemin de Damas. Les Israéliens ne veulent entendre parler que de la médiation américaine, mais le secrétaire d'État américain, lors d'un de ses passages à Damas, ne peut rencontrer le président syrien, officiellement pour des contraintes d'emploi du temps, ce qui peut être justifié par le fait que, pour des raisons de sécurité, les déplacements des responsables américains ne sont pas annoncés à l'avance. Mais cela reste quand même une humiliation pour les Américains, puisque Hervé de Charette est reçu par Damas et non pas par Assad, même non pas Warren Christopher. On progresse ainsi dans la rédaction d'un texte où toutes les subtilités de la langue diplomatique sont utilisées. On arrive ainsi le 26 avril à un cessez-le-feu annoncé simultanément à Jérusalem par le premier ministre israélien Shimon Peres et le secrétaire d'État américain Warren Christopher, et à Beyrouth par le premier ministre libanais Rafik Hariri et le ministre français des Affaires étrangères Hervé Charette. L'accord non signé qui accompagne le cessez-le-feu stipule, je cite, « Les États-Unis considèrent qu'après les discussions avec les gouvernements d'Israël et du Liban et en consultation avec la Syrie, le Liban et Israël mettront en œuvre les dispositions suivantes. Les groupes armés au Liban n'effectueront pas d'attaque contre Israël à l'aide de Katyusha ou d'aucun type d'armement. Israël et ceux qui coopèrent avec lui ne procéderont pas à des tirs avec aucun type d'armement contre des civils ou des objectifs civils au Liban. Plus généralement, les deux parties s'engagent à faire qu'en aucune circonstance, des civils ne soient la cible d'attaque et que les zones habitées par des civils ne soient la cible d'attaque et que les zones habitées par des civils et les installations industrielles et électriques ne soient utilisées comme point de lancement des attaques. Sans que cela viole l'arrangement, aucune disposition de cet arrangement ne pourra empêcher une partie d'exercer le droit de légitime défense. Un groupe de surveillance est établi, formé des États-Unis, de la France et de la Syrie, ainsi que des parties, le Liban et Israël. Sa tâche consistera à surveiller la mise en œuvre de l'arrangement énoncé ci-dessus. Les plaintes seront soumises au groupe de surveillance. En cas d'allégation de violation de l'arrangement, la partie soumettant la plainte devra le faire dans les 24 heures. Les procédures de traitement des plaintes seront établies par le groupe de surveillance. Fin de citation. Cela ne doit pas être une solution permanente. Les États-Unis travailleront à la reprise des négociations de paix entre Israël, la Syrie et le Liban dans un climat de stabilité et de tranquillité. Pas du texte. Alors, on voit dans l'opération Raisin de la colère l'une des logiques pernicieuses de l'époque actuelle, qui est le fait que, globalement, les actions d'antiterrorisme, sauf celles qui sont de nature policière, font plus de victimes que les actions terroristes elles-mêmes. C'est une règle générale que l'on voit actuellement ces dernières années, quand on voit par exemple l'action des drones américains au Pakistan qui font plus de victimes que les actions des talibans contre les troupes américaines en Afghanistan. Et ça, c'est un des paramètres difficiles de la situation contemporaine. Alors, on a un résumé annuel du département d'État qui fait le décompte pour le monde entier des victimes du terrorisme, mais on n'a pas un décompte des victimes de l'antiterrorisme. Ce qu'il faudrait peut-être faire un jour, ce qui ne veut pas dire que je condamne les actions dites antiterroristes, mais je pense qu'en général, comme la France le fait d'ailleurs, l'antiterrorisme est avant tout une question de police. Parfois de basse police, mais en tout cas de police. Alors revenons à la fin du gouvernement Pérez. Le coût humain des raisons de la colère est de 164 morts du côté libanais pour un certain nombre de blessés du côté israélien. Du fait même qu'il n'a pas été détruit, voire qu'il a conservé l'essentiel de ses forces, le Hezbollah peut se considérer vainqueur, d'autant plus que l'accord du 26 avril reprend l'essentiel de ses positions. Puisqu'on l'avait vu dès le départ de Raisin de la colère, le Hezbollah a défini comme objectif politique le retour à l'accord ou à la conclusion de l'accord. L'existence d'un groupe de surveillance limite même les capacités de frappe israéliennes, puisqu'il établit une forme d'arbitrage externe. Le drame de Cana, a cassé la dynamique impulsée par le sommet des bâtisseurs de la paix, puisqu'aux victimes des attentats en Israël, on répond par celle des bombardements israéliens. L'Iran et la Syrie, au lieu d'être isolés, ont effectué un retour en première ligne sur la scène internationale. La droite israélienne met fin à une trêve politique et critique avec véhémence l'échec du gouvernement travailliste. À l'en croire, il aurait fallu aller jusqu'à une opération terrestre pour éliminer définitivement le Hezbollah. Mais alors, les travaillistes ont beau jeu de rappeler les conséquences funestes de la guerre de 1982. Les sondages remettent à égalité les compétiteurs des élections israéliennes. Les opérations au Liban ont mis à l'arrière-plan les progressions sur le dossier palestinien. Le 22 avril a pu se tenir le 21e Congrès national palestinien à Gaza, avec la venue autorisée d'un certain nombre de personnes recherchées par Israël, comme Abu Labbas, le responsable de l'affaire de l'Aquilé Lauro, Abu Daoud, Munich, 1972, et Leila Khaled, l'ancienne icône de la révolution palestinienne et des détournements d'avions. Bien évidemment, l'opposition palestinienne joue le jeu de la chaise vide. Après 3 jours de discussion, dont quelques heures seulement sur le cœur de sujet, le Parlement de l'OLP approuve par 504 voix contre 54 et 14 abstentions la révision de la charte palestinienne de 1968. Tous les articles contraires aux lettres de reconnaissance mutuelle de 1993 sont annulés. Le préambule cite également les différentes résolutions de l'ONU, notamment la 242 et la 338, la déclaration d'indépendance votée à Alger en 1988 et les accords d'autonomie passés avec Israël. En bref, le Conseil national palestinien s'approprie l'ensemble du corpus juridique issu du processus de paix. Arafat a bien fait les choses. C'est lui qui a désigné les 98 membres représentants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui s'ajoutent aux 88 députés élus de l'autorité palestinienne. Il s'est ainsi assuré une large majorité dans les 669 membres du Conseil. Une nouvelle charte est mise en chantier, mais on attend pour sa rédaction l'accord final avec les Israéliens prévu pour 1999. Grâce à son habileté manœuvrière, Yasser Arafat se trouve consacré dans son triple cumul, chef du Fatah, mouvement palestinien le plus important, président élu par le peuple de l'autorité palestinienne et président de l'ONP. Au début du mois de mai, il présente son premier gouvernement, qui comprend un ancien communiste, un islamiste, voire un ancien opposant à sa ligne politique. Bien évidemment, il a bien l'intention de concentrer sur sa personne tous les pouvoirs. On a calculé que dans cette période, Arafat a accumulé 30 présidences ou directions d'institutions palestiniennes. C'est-à-dire que vraiment la concentration absolue des responsabilités autour de sa personne. Ce qui, avec évidemment surtout le rôle le plus important pour toute institution politique, c'est d'être le principal ordonnateur des fonds. Le programme électoral du Parti travailliste ne comprend plus une opposition formelle à la constitution d'un État palestinien, la question étant sujette aux négociations. Arafat est ensuite reçu à Washington, où il rencontre le président Clinton et où on le félicite pour son action antiterroriste. À la date prévue du 5 mai, commence ce qui doit être la négociation sur le statut final. Abou Mazen et Ori Savir dirigent leurs délégations respectives. Les discours d'inauguration soulignent l'ampleur des divergences. Abou Mazen rappelle la liste des engagements non tenus par les Israéliens. Passage protégé entre Gaza et la Cisjordanie, libération des prisonniers, redéploiement des bombes, retour des personnes déplacées en 1967. Il insiste sur le fait que l'extension des colonies, la confiscation des terres, le bouclage sont contraires à la paix. Savir préfère marquer qu'Israël continuera de mettre complètement en œuvre l'accord intérimaire qui n'est pas parfait, mais qui constitue un changement révolutionnaire dans l'histoire des relations israélo-palestiniennes. Tout ce qui s'est passé depuis 3 ans démontre que la direction des événements est irréversible. Voilà la thèse de Savir. Pour les Palestiniens, nous avons reconnu l'État d'Israël. Il est grand temps qu'Israël enlève les obstacles placés sur la route de notre indépendance et de notre État. Sur ce point, Savir indique que s'il était nécessaire de séparer politiquement les deux peuples pour encourager la coopération entre eux, il pourrait y avoir plusieurs lignes de séparation. Il se montre inébranlable sur la question de Jérusalem. Je cite « Jérusalem est pour nous une question éternelle ». Fin de citation. Il n'est pas question que les Palestiniens y jouent un rôle politique. Comme d'habitude, on définit des commissions mixtes destinées à étudier chaque grand dossier et l'on établit un canal de communication secret entre les deux chefs de délégation pour trancher les points décisifs. Un accord complémentaire est conclu le 9 mai 1996 annonçant le rétablissement de la présence internationale temporaire à Hébron. Vous savez, cette force d'observateurs internationaux qui avait été fait après l'affaire du massacre dans la mosquée et qui avait été ensuite rappelé et qui donc va être établi. C'est pour ça qu'elle existe toujours. Et vous avez son site internet, si ça vous intéresse, en anglais. De plus en plus, on entre sur le plan de la documentation, sur le fait qu'on a de plus en plus de documentation disponible en ligne. Puisque 1996, où nous sommes, est une période où l'Internet est en train de se développer et donc où la documentation en ligne s'accroît. D'ailleurs, si vous regardez les derniers ouvrages sur le Moyen-Orient et sur l'actualité dans le Moyen-Orient, la majorité des références sont maintenant des références en Internet. La droite israélienne fait une campagne contre le processus de paix. Les clips télévisés du Likoud jouent sur la peur. Pérez divisera Jérusalem et nous vivrons dans la peur. Pérez acceptera l'État palestinien et nous ne serons plus montés dans les autobus. Pérez donnera le Golan aux Syriens, ils reviendront sur les rives du lac de Tibériade et nous vivrons dans la peur. Ces voix off accompagnent des images d'archives des récents attentats islamistes à Jérusalem et à Tel Aviv. Voilà ce que la voie choisie par les travaillistes nous a amené. On montre Pérez tout sourire, voire main dans la main avec Yasser Arafat. Pérez a confié notre sécurité à cet homme, le Likoud la reprendra en main. Netanyahou réussit à coaliser les partis religieux séfarades et Ashkenaz. En s'appuyant sur l'identité juive, il remet en cause l'ouverture au grand monde que représente la gauche israélienne. Le slogan est « Bibi », c'est le surnom de Netanyahou, « est bon pour les Juifs », sous-entendant que Peres est trop pro-arabe et trahit les intérêts juifs, voire l'identité juive. Les travaillistes n'insistent pas trop sur le processus de paix, dont les contours définitifs sont toujours très nébuleux, préférant insister sur la fermeté de Pérez en question de sécurité. Bouclage des territoires, raison de la colère. Si les sondages leur donnent toujours une légère avance, les travaillistes se savent vulnérables en cas de nouvel attentat. Pérez accuse l'Iran de chercher à fomenter de nouveaux attentats afin d'amener la droite au pouvoir et de mettre ainsi fin au processus de paix. Cette thèse est soutenue par les Américains et par l'autorité palestinienne, ce qui provoque les protestations du Likoud qui les accuse de s'ingérer dans la campagne électorale. Il en est de même pour les déclarations de certains officiels arabes, jordaniens, palestiniens, égyptiens ou marocains appelant les Israéliens à voter Pérez. On n'a jamais vu ça, mais un certain nombre de chefs d'État arabes ou de responsables d'État arabes appellent directement à voter pour l'un des partis dans la campagne électorale israélienne. Le 13 mai, un jeune colon d'origine américaine est tué par un tir palestinien. le commando venant de la zone B, on ne peut incriminer l'autorité palestinienne. La stratégie électorale des travaillistes n'a pas pris en compte les conséquences de l'élection directe du Premier ministre israélien. Jusque-là, l'électorat arabe votait soit pour les travaillistes, souvent par clientélisme électoral, soit pour les partis arabes non sionistes de gauche ou de tendance islamiste. Or, à un moment où les travaillistes, sensibles à l'accusation de s'appuyer sur les députés non-juifs pour conserver la majorité à la Knesset, ne veulent pas apparaître comme pro-arabes, les Arabes israéliens s'émancipent. Une personnalité comme le brillant et provocateur Azmi Bichara conteste l'identité juive de l'État pour appeler une égalité de tous les citoyens d'Israël. Il ne veut pas, je cite, que son fils dans 20 ans ait comme lui aujourd'hui moins de droits sur sa terre que n'importe quel juif de Brooklyn ou de Kiev qui émigre dans son pays, Israël. Fin de citation. Il s'agit de faire un programme proprement arabe à l'intérieur de l'État d'Israël en rejetant l'opposition entre droite et gauche israélienne. Il ne votera pas pour un homme qui met en place un système d'apartheid dans les territoires palestiniens occupés, même si cet apartheid est un peu moins dur que celui qui est envisagé par Netanyahou, c'est encore l'apartheid. Donc, soit c'est en 1996 qu'apparaît le thème de l'apartheid utilisé contre Israël, et ça vient d'abord des Arabes israéliens. Il y a des problèmes propres aux Palestiniens en Israël. Si les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie se battent pour faire reconnaître leur État, ici, nous nous battons pour nous faire reconnaître par notre État. Et il est grand temps, continue Béchara, que nous ayons notre propre programme politique, nos propres candidats. Nous n'avons jamais su définir un vrai projet national arabe. Nous n'avons jamais osé nous attaquer à la définition même d'un État qui devrait être aussi le nôtre, mais qui aujourd'hui, de facto, comme de jure, est l'État juif. C'est ce qu'on appelle le thème de l'État de tous les citoyens. Tout en voulant se placer dans le cadre politique israélien, l'électorat arabe, 18% de la population, 12% de l'électorat, est sensible au bouclage des territoires occupés et aux violences de raison de la colère. Plus les travaillistes se vantent des mérites de leur politique de fermeté, plus ils s'aliènent l'électorat arabe, indispensable pour avoir la majorité à l'élection directe du Premier ministre. On est maintenant loin de l'unanimité judéo-arabe qui avait accompagné l'assassinat de Rabin. Pérez, par sa politique, a dilapidé ce précieux capital politique. De surcroît, Arafat ne croit plus en la politique des travaillistes. Il lui est de plus en plus difficile de minimiser relativement les avancées de la colonisation juive des territoires et de Jérusalem. À la sortie de son dernier entretien avec Shimon Peres, il a déclaré à son entourage qui le poussait à soutenir les travaillistes « Pourquoi ferais-je cela? Ils sont tous les mêmes. » Il laisse pourtant Abou Mazen agir dans ce sens. On tarde à mettre au point le comité de surveillance du Liban Sud au risque de voir le conflit reprendre du fait des activités du Hezbollah. Les cinq pays membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les délais de riposte, le mécanisme de vote et le rythme de la rotation de la présidence. Du fait de la reprise des accrochages, chaque parti accuse l'autre de violer l'accord du 26 avril. Dans la nuit du 29 au 30 mai, les premiers résultats partiels donnent Pérez vainqueur, puis la tendance s'inverse. Finalement, Netanyahou obtient 50,4% des suffrages à l'élection directe du Premier ministre. C'est donc à lui de former la coalition dirigeante. Shimon Peres a mérité sa réputation d'éternel perdant dans les élections générales. Son second mandat de Premier ministre a été une suite d'erreurs stratégiques. La première a été de ne pas procéder à des élections immédiatement après la mort de Rabin, puis de les avancer alors que les négociations avec les Syriens et les Palestiniens étaient en cours. Il n'avait pas ainsi de bilan à présenter. La seconde erreur a été l'assassinat de Yahya Ayash, qui a mis fin à la trêve tacite avec le Hamas, qui s'était engagé à ne pas créer de complications à l'autorité palestinienne, c'est-à-dire à ne pas procéder à des attentats. La satisfaction de punir un criminel est une chose, La volonté d'établir une dissuasion est une autre. Les attentats ciblés n'ont jamais réussi à arrêter les attentats. Au contraire, ils les suscitent. La troisième erreur a été de lancer l'opération Raisin de la colère, qui a annulé les bénéfices du sommet des bâtisseurs de la paix. Il s'est immédiatement dit au Moyen-Orient que cette opération a été décidée en marge de ce sommet. Ça, j'en ai des souvenirs directs. Quelqu'un qui avait entendu quelqu'un qui était au sommet des bâtisseurs de la paix et qui avait dit que l'opération Raisin de la colère avait été décidée dans les coulisses du sommet. Alors, je ne sais pas si c'est historiquement vrai, mais ce qui compte, c'est que ce soit dit. C'est ça qui compte. Cela a été l'interprétation de la Syrie qui s'est sentie directement visée par l'opération israélienne. Si Damas avait cédé, la Syrie aurait perdu sans aucune contrepartie son alliance avec l'Iran et se serait trouvée isolée face à Israël, d'où la nécessité pour Hafez al-Assad de maintenir une attitude de fermeté. Le massacre de Cana a fait perdre les voix arabes indispensables à l'élection du Premier ministre. Peres a voulu se poser en monsieur sécurité comme l'avait été Rabin, mais il n'avait pas l'expérience militaire qui lui aurait permis de tenir à distance l'appareil militaro-sécuritaire. Au contraire, pour paraître fort, il lui a fallu le suivre dans les affaires Ayash et du Hezbollah. Rabin était persuadé qu'une opération militaire au Liban serait vaine et avait la capacité de maintenir à distance les militaires, ce qui n'était pas le cas de Peres. Son discours de suite Peres, chargé de vastes projets de coopération économique régionale, a plutôt inquiété les interlocuteurs arabes et l'a exposé aux critiques de la droite israélienne. Netanyahou a su jouer la carte de la peur et du conflit des cultures. Il promet d'avoir la paix sans céder de territoire et d'assurer la sécurité. En animant une coalition de partis religieux et de droite nationaliste, il oppose une identité juive fortement définie de façon ethno-religieuse à une identité israélienne plus vague, bien que posée comme plus moderne. Donc on arrêtera là pour cette année, parce qu'on a une césure avec l'arrivée de Netanyahou au pouvoir, avec toute l'ambiguïté que constitue ce processus de paix, puisque, en gros, vous avez deux thèses qui s'opposent. La première, c'est qu'il y avait bien un vrai processus de paix avec réconciliation qui a été entravé par les attentats du Hamas et par la colonisation des territoires, mais qu'il y avait bien une dynamique porteuse. Et en ce sens-là, on vous dira que si Rabin n'avait pas été assassiné ou si Peres avait remporté l'élection, le processus de paix aurait continuer. La seconde thèse, elle analyse le processus de paix comme étant en fait le passage d'une gestion directe des territoires palestiniens à une gestion indirecte, c'est-à-dire une gestion coloniale de type indirect rule, selon les principes de la colonisation britannique. Et que donc le processus de paix n'était que le passage d'un type d'occupation à un autre type d'occupation. Et donc à partir de ce moment-là, il était condamné à l'avance. Mais évidemment, on ne peut pas trancher directement entre les deux thèses, puisque toutes les deux sont en quelque part ce qu'on appelle contrafactuel, c'est-à-dire se pose l'hypothèse qu'est-ce qui serait passé si si Rabin n'avait pas été assassiné, si Pérez n'avait pas avait été réélu. Ainsi de suite. Et puis, il faut bien intégrer que vous avez d'une part des logiques et des processus qui ont lieu, et que d'autre part, vous avez la dynamique propre des événements, et que, éventuellement, les dynamiques propres des événements peuvent bouleverser les logiques des processus, ce qui implique le travail que j'ai essayé de faire jusqu'ici, qui est donc cette description chronologique minutieuse de chacune des séquences de la question de Palestine. Parce que sinon, on perd justement cette interaction entre les processus et les événements. Donc il ne restera certainement plus qu'un an pour terminer ce cours commencé en 2003, donc un cours long de 10 ans, je vais peut-être battre le record du Collège de France. Nous irons normalement l'année prochaine jusqu'à janvier 2001, jusqu'à Taba, où la paix manquait, qui sera probablement le point terminal de ce cours sur la question de Palestine. Et puis, dans l'avenir, nous repasserons à de l'histoire plus ancienne, si tout le permet. Nous reviendrons dans le cours dans 2 ans sur un autre sujet qui est à la fois d'actualité mais qui est plus ancien, qui est la Première Guerre mondiale et la formation des États arabes du Proche-Orient, compte tenu que nous entrerons à ce moment-là dans la logique du centenaire de la Première Guerre mondiale qui va nous happer à partir de 2014. En tout cas, je vous remercie de votre assistance pour cette année.